Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez toute notre actualité sur notre site mariedenazareth.com. Consultez cette mine en ligne, notamment l'encyclopédie mariale. Certains prêtres nous ont dit y aller pour compléter leurs homélies. Par ailleurs, vous pouvez aussi réécouter toutes nos anciennes émissions en podcast sur notre site en ligne, dans l'onglet podcast. Alors aujourd'hui, Justina, vous nous invitez à recevoir le corps du Christ et goûter à la source immortelle. Dans Luc au chapitre 14, versets 16 à 24, ce texte est lu ce dimanche chez les orthodoxes. Bonjour Justina.
Bonjour France.
Alors, puis comme promis, Aymeric de Malaisie est de nouveau à nos côtés. Bonjour Aymeric.
Bonjour France.
Merci beaucoup d'être revenu. Nous poursuivrons donc notre découverte de Jeanne d'Arc et évoquerons aussi un beau projet, hein, l'anniversaire de l'apparition de Saint-Michel Archange à Sainte-Jeanne d'Arc il y a 800 ans.
600 ans.
Pardon. Nous vous écoutons à présent, Justina.
Eh bien, donc, je vais commencer par la lecture. Maintenant, depuis le début de cette année, on a pris l'habitude de psalmodier, donc je ne changerai pas cette habitude. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 14, versets de 16 à 24. « Il lui dit, un homme faisait un grand dîner auquel il invite beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant tous et tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, il me faut aller le voir, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, tiens-moi pour excuse. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places dans les rues de la ville. » Et introduit ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, dit serviteur, tes ordres sont exécutés, il y a encore de la place. Et le maître dit au Seigneur, va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer des gens de force afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Ceci est une parabole parmi tant d'autres racontées par Jésus-Christ. La première exégèse possible est celle la plus classique et historique, c'est de dire qu'il s'agit ici de la non-acceptation de Jésus en tant que Messie par le peuple élu. Car les invités VIP, si je peux me permettre, comme on les dirait aujourd'hui, trouvent tous une excuse de ne pas se rendre au repas offert. Et le peuple d'Israël est le peuple élu, le fameux VIP à ce repas du Seigneur. Cette exégèse, à mon sens, n'est que partielle, car il ne faut pas oublier que la majorité absolue des premiers disciples de Jésus-Christ sont eux-mêmes des Juifs. Je vais donc opter pour une seconde exégèse, parfaitement anachronique, mais actuelle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un chrétien d'aujourd'hui a comme le repas le plus important dans sa vie? L'Eucharistie. Et combien de fois nous voyons des chrétiens qui malheureusement, et souvent ce n'est point de leur faute, ignorent l'importance de ce repas. Certains perçoivent l'Eucharistie comme un devoir, d'autres comme un dernier sacrement avant de mourir. Pour d'autres, ce n'est qu'une pilule magique contre les maladies ou encore le mauvais œil. D'autres ne communient pas car ils se croient indignes. En dernier lieu, il y a ceux qui ont d'autres occupations, y compris la grâce matinée au lit. Et je le dis sans jugement, moi la première, j'apprécie les grâces matinées quand je peux me les permettre. Mais le problème est que l'Eucharistie est bien plus qu'un devoir, ce n'est pas la question. Pourquoi entre chrétiens on s'appelle frère et sœur? Pour faire joli? Non. Car le même sang coule dans nos veines, le sang du Christ. Si on coupe un membre d'un corps, admettons mon petit doigt, mon sang n'y circule plus, mon doigt ne fait plus partie de mon corps. Il en est de même avec le corps du Christ. Il est lié par le réseau sanguin, le réseau eucharistique. On ne communie pas pour faire plaisir au bon Dieu, on le fait pour nous, car nous sommes tous malades, nous sommes tous irradiés par la mort. Le seul antidote, c'est lui. Un ancien canon de l'Église primitive dit « Celui qui, ayant la possibilité de se rendre à une assemblée eucharistique, mais ne l'a pas fait pendant 4 semaines consécutives, il se coupe lui-même du corps du Christ, en fait qu'il soit anathème. » Alors je ne parle pas des situations où il y a une suspension temporaire d'accès à l'Eucharistie pour pénitence ou en cas d'impossibilité d'accéder à l'Église. Mais quand une personne refuse de participer au repas du Seigneur sans raison légitime, oui, nous sommes pris par nos occupations, par notre travail, nos familles. Mais si on se dit chrétien, il y a bien quelqu'un qui doit être prioritaire. Il nous attend tous les dimanches à son repas. Il y a aussi des personnes qui viennent assister à une liturgie ou bien une messe, mais ne s'approchent pas de la coupe. Si on leur pose la question, j'ai entendu mille et une fois, mais je suis indigne. Bon, j'ai deux nouvelles pour vous, une mauvaise et une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que littéralement personne n'en est digne, ni moi, ni le prêtre célébrant, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Mireille. La bonne nouvelle, c'est que c'est un cadeau, un remède de guérison pour le corps et l'âme et pour la vie éternelle. Et Dieu sait parfaitement que personne n'en est digne, mais nous en avons un besoin vital. Le royaume des cieux est en nous, il commence ici et maintenant. Afin de le faire pousser en nous, il faut le planter par le baptême, le nourrir à l'Eucharistie et l'arroser par les prières. Les soi-disant interdits ne sont qu'une haie qui sert de préserver ce jardin d'Éden en nous. Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle.
Merci, Yuster. Il faudra qu'on en reparle du mot repas.
Oui, pourquoi pas. Je mange ce que je suis.
Merci beaucoup, Justina. Alors à présent, nous allons écouter ce très beau chant à Jeanne avant de poursuivre notre conversation avec Émeric de Malaisie.
Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Vous le comprenez, chaque euro va compter pour notre combat. plus que jamais, surtout si vous écoutez nos programmes sans y contribuer, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées.
Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros.
Par avance, merci.
Alors merci Aymeric d'être de nouveau à nos côtés. Votre ouvrage nécessitait que nous poursuivions avec une deuxième émission, La vie de cette grande sainte. Je rappelle que vous êtes auteur du remarquable livre Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France, chez Via Romana. Alors vous êtes membre de l'Académie Sainte-Jeanne d'Arc, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc et bien d'autres choses encore, dont l'organisateur d'un projet dont nous parlerons en fin d'émission. Alors Jeanne fut un fin stratège, dites-vous dans votre ouvrage, très au fait qu'une guerre ne peut se faire sans un effort de guerre. Elle s'adresse aux habitants de Rion.
Oui, entre autres.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle était stratège ?
Oui, alors elle s'adresse aux habitants de Rion, en fait, pour leur demander des munitions. Donc, sa lettre aux habitants de Rion n'est pas très stratégique. Vous savez, la stratégie, c'est l'art de conduire la guerre au plus haut niveau. Dans la stratégie, il n'est généralement pas question de champ de bataille. La stratégie, c'est l'art de faire correspondre les buts politiques avec la diplomatie, l'économie, la guerre, etc. Donc vous voyez, c'est une dimension très, très élevée. Et Jeanne, elle est à mon avis plus que stratège. Elle est, je pense, un parfait alignement que je crois même assez unique à ce point-là dans l'histoire de la guerre en règle générale. C'est un parfait alignement entre le politique, le stratégique et le tactique. Vous voyez, donc le politique, c'est l'art de définir des buts à la guerre. Le stratégie, c'est l'art de conduire ses buts, enfin de réaliser ou d'atteindre ses buts par la coordination de tous les grands outils qu'on a à disposition, la guerre, effectivement, la diplomatie, la culture, l'économie, etc. Et puis la tactique, c'est l'art de le faire au niveau du champ de bataille. Oui. Et avec Jeanne, on a un parfait alignement entre ces trois grandes composantes de la victoire, c'est-à-dire les buts politiques, la stratégie et la tactique. Et ça me paraît assez unique. On peut trouver d'autres alignements assez remarquables dans ces trois dimensions. Par exemple, César. Mais César, il était l'autorité dans ces trois dimensions. Alors que Jeanne, au fond, quand elle arrive sur le champ de bataille pour la première fois en 1429, elle n'a aucune autorité. Elle n'a même presque aucune légitimité.
Légitimité, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Et au contraire, elle va réussir à s'imposer dans ces trois domaines. Vous voyez, elle va réussir à convaincre le roi que son but politique à lui, c'est le sacre. Se faire sacrer, parce que du sacre va découler dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens même la reconnaissance. Hein, il deviendra le roi légitime. Oui. La stratégie, ça va être celle qui va consister à dire qu'il faut, dans un premier temps, libérer Orléans. Et même au-delà de ça, il va falloir pour Jeanne s'imposer, il va falloir procéder à une véritable manœuvre de communication. C'est ce que notamment racontent les historiens Philippe Contamine, Xavier Hilary, Olivier Bouzy dans leur livre. Ils racontent comment un véritable dossier de communication va être réalisé par le roi pour être envoyé dans toutes les villes de France pour bien montrer qu'il y a une dimension politique à cette guerre qu'il va mener. Il y a une dimension de droit également qui va être impliquée dans cette guerre. C'est pour ça notamment que Jeanne va recourir à des sommations. Vous voyez, à trois sommations adressées aux Anglais. Donc vous voyez, il y a au-delà de la seule conduite des opérations sur le plan militaire et tactique lors de la bataille d'Orléans et puis lors de chacune des rencontres qui vont suivre, il y a une dimension supérieure à tout ça, une dimension de légitimité, une dimension politique. Et donc avec Jeanne, on a un alignement parfait, je trouve, entre la politique, les buts poursuivis, la stratégie, c'est-à-dire les grands moyens qui vont être pris pour atteindre ces objectifs, et puis sur le terrain, tactiquement, la réalisation des choix militaires qui sont faits pour chasser les Anglais de bastille en bastille autour d'Orléans dans un premier temps, les choix tactiques qui vont être faits lors de la campagne de la Loire, où, comme le dit un auteur militaire qu'il a étudié, Jeanne précède Napoléon de 400 ans. lors de la campagne de la Loire. La campagne de la Loire, c'est à peu près la campagne de Napoléon, la campagne de France de 1814, qui est considérée comme le plus beau chef-d'œuvre tactique de Napoléon. Et ben, c'est ce que fait Jeanne, vous savez, en 4 jours, elle va percuter, si vous me permettez l'expression, les Anglais, et elle va même finir par les écrabouiller. Et donc on ne sait jamais où elle est. Un jour, elle est à Beaugency, un autre jour, elle est à Patay, un autre jour, elle est à Main-sur-Loire, un autre jour, elle est à Jargeau, et donc elle les écrabouille, et enfin, elle finit par les écraser véritablement à la bataille de Patay. Donc vous voyez, on a un alignement très étonnant entre le but politique au plus haut niveau, le sacre du roi à Reims, la stratégie et la tactique sur le champ de bataille.
Du reste, dans votre livre, vous évoquez un moment, vous dites que les militaires actuels même ont été étonnés de voir qu'elle avait déjà ce sens. Et que,
c'est pas tant les militaires actuels, moi-même j'ai été militaire pendant 33 ans, donc je peux vous dire que les militaires aujourd'hui n'étudient pas beaucoup malheureusement les campagnes de Jeanne d'Arc, mais elle a quand même été étudiée par des militaires, et ceux qui ont été les plus étonnés, c'est ceux qui ont été sur le champ de bataille avec elle. Vous avez notamment les témoignages de Dunois, le duc d'Alençon. Alors Dunois, vous savez, c'était le prince qui exerçait l'autorité à Orléans. Quand Jeanne arrive, la ville se défend depuis 7 mois, et elle se défend notamment sous l'autorité de Dunois. Dunois, d'Alençon, Thibaut d'Arbagnac, qui sont des grands chefs qui l'ont accompagné, qui sont des grands capitaines, on va dire, reconnaissent notamment lors du procès dit de réhabilitation, qui intervient 20 ans après la mort de Jeanne, et ils témoignent, et ils disent, ils sont époustouflés, et ils le disent, elle avait l'expérience d'un capitaine de plus de 20 ans de métier. Elle était pour la conduite des armées, ordonner la bataille, et notamment pour placer l'artillerie, disent-ils. Elle était extraordinaire. Donc ils reconnaissent, ils reconnaissent que c'est elle qui conduisait les opérations.
Oui. Alors votre livre s'intitule « Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France ?» Oui, pourquoi Dieu choisit la France ? Cela veut-il dire que Dieu l'aime particulièrement ? Sainte Jeanne d'Arc parle du Saint Royaume de France. Pourquoi, en fait ? Pourquoi la France ?
Ah bah écoutez, alors je pourrais pas vous répondre en quelques minutes, en quelques secondes de ce qu'il m'a fallu tout un livre à développer, si vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Jeanne parle de Saint-Royaume de France, elle veut dire quelque chose de très profond. Elle veut pas dire par là que le royaume de France est composé de saints, au sens où on l'entend, de gens dont les vertus seraient à ce point héroïques ou exemplaires qu'on peut les qualifier de saints. Non, le royaume de France est un royaume de pécheurs. Et pourtant, elle parle de saint royaume de France pour signifier une réalité dont j'ai moi-même trouvé finalement l'explication en prenant le catéchisme de l'Église catholique. Il est dit que la sainteté ne veut pas d'abord signifier la perfection morale, elle veut d'abord signifier l'appartenance à Jésus. Vous voyez ?
Oui.
Et quand Jeanne parle de saint royaume de France, c'est d'abord cette réalité-là qu'elle veut signifier. Elle veut dire que le royaume de France appartient d'une manière toute particulière à Jésus. Et lorsqu'elle parle de ça, c'est intéressant parce qu'elle ne parle pas de saint royaume d'Angleterre.
Mais oui.
Et ça ne veut pas dire que le royaume d'Angleterre n'est pas saint, enfin qu'il l'est moins que le royaume de France, au sens où on l'entend. Non, ça veut simplement dire que la France appartient d'une manière toute particulière à Jésus. Et je crois que c'est une réalité dont il faut prendre conscience. Vous savez, on ne peut pas comprendre Jeanne si on l'extrait, de l'histoire de France prise dans son ensemble. Jeanne n'intervient pas comme ça, ex nihilo. Avant Jeanne, il y a toute une histoire de France qui est imprégnée de surnaturel notamment le sacre des rois de France. Vous savez, le sacre des rois de France, c'est le sacre de ces rois qui sont oints d'une huile qui nous est donnée par l'Esprit Saint, selon une grande tradition qui n'a jamais été et qui est unique en Europe.
Alors, je vous cite, au risque de surprendre le lecteur, nous avancerons une raison qui n'est en rien spirituelle. En choisissant la France, Dieu se fait maître de géopolitique, car il veut dissocier le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel en donnant à celui-ci la primauté pour guider l'action de celui-là. Dieu voulait aussi qu'une coopération fructueuse puisse s'établir entre les deux pouvoirs. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Ben, en fait, si Jeanne nous dit que le royaume de France et le Saint-Royaume est un royaume particulier, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il fait effectivement ce choix précis de la France.
Et oui.
Vous voyez ? Après tout, on pourrait très bien penser que d'autres royaumes en Europe auraient pu mériter ce titre de saint royaume.
Mais oui.
Dans le sens où c'est un choix particulier qui est fait par Dieu. D'ailleurs, plusieurs papes confirment ça. Vous savez que Léon XIII parle de la France comme étant une nation prédestinée.
Oui.
Que Saint Pie X nous parle de la France comme étant la tribu de Juda, J-U-D-A, hein, la tribu de David. Mm-hmm. Je ne parle pas de
oui,
Judas
oui,
Iscariote,
oui,
hein, vous m'avez compris. La tribu de Juda de l'ère nouvelle, ce que Grégoire IX dit également. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a un choix particulier. Alors, pourquoi la France ? Pourquoi, après tout, Dieu aurait pu faire le même choix avec l'Espagne, avec la Russie avec... D'ailleurs, il fait des choix, je pense qu'à chaque nation, il confie d'une certaine manière une mission qui lui est propre. Mais à la France, il confie, me semble-t-il, cette nation d'être la tribu de Juda de l'ère nouvelle, c'est-à-dire d'être la tribu dont va être issue la royauté, la succession de David. D'une certaine manière. C'est ça que les papes veulent dire quand ils disent que nous sommes la tribu de Juda de l'ère nouvelle. Et d'ailleurs, avec Jeanne d'Arc, on peut dire d'une certaine manière, comme le dit le cantique de Zacharie, vous savez, il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Il fait surgir Jeanne d'Arc. On peut pas, vous êtes d'accord avec moi qu'elle surgit hein, dans
oui,
l'histoire
oui.
de France. Dans la maison de David, c'est-à-dire dans la maison de celui dont toute la liturgie du sacre fait le successeur de David, et ce qui nous est confirmé par cette sainte ampoule qui nous est donnée par l'Esprit Saint, cette grande tradition qui n'a jamais été contestée, à ma connaissance, par l'Église.
Oui.
Partout ailleurs en Europe, les rois sont oints également. Il n'y a pas qu'en France qui a cette tradition de oindre le roi, mais il n'y a qu'en France qu'on appelle ça un sacre, parce qu'il n'y a qu'en France que l'huile est bénie par l'Esprit Saint lui-même. Partout ailleurs, on parle de couronnement, de coronation, coronation. Je crois même qu'en russe, j'ai vu le mot, il y a quelque chose comme koronastia.
Koronatse.
Ah, voilà. Bon. Donc, on a cette tradition partout de l'onction royale, mais il n'y a qu'en France qu'on parle de sacre pour lui donner une dimension supérieure. Donc, pourquoi la France ? Parce que ça ne répond pas à la question
oui.
totalement. Vous êtes bien d'accord, je l'explique, mais
oui.
j'en viens finalement à cette idée pour ma part. Je crois que ce qui a distingué la France d'une autre nation, pour qu'elle soit à ce point distinguée par Dieu lui-même, c'est des raisons géopolitiques, c'est-à-dire que Dieu se fait maître de géopolitique. En fait, quand il installe d'abord, et c'est pour ça qu'il y a une primauté du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, il installe d'abord Rome, le pape à Rome. Et il veut qu'il y ait une coopération féconde entre le pouvoir temporel et le spirituel. Il va installer le pouvoir temporel après. Vous voyez ?
Oui.
Par le biais de Saint-Rémy et de Clovis, ce baptême, Saint-Rémy
oui.
dont Bossuet nous dit qu'il est le nouveau Samuel. Vous voyez, il y a cette idée que, au fond, le pouvoir temporel va devoir coopérer avec le pouvoir spirituel. Et pour qu'il coopère bien, il ne faut pas répéter l'erreur qui a été celle de Byzance, où les deux pouvoirs ont fini par se mélanger d'une
oui.
certaine manière. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont fini par ne faire à peu près plus qu'un, puisque l'empereur pouvait convoquer les conciles. Il pouvait. Enfin, il y avait quand
on
même.
On payait les factures des conciles. Vous n'avez pas l'air de la byzantinerie, laissez-moi ça.
En tout cas, il y avait une proximité, ne serait-ce que géographique, entre l'empereur et les patriarches de Constantinople, à Constantinople, à Byzance, qui était sans doute à éviter pour qu'il puisse y avoir une bonne coopération féconde entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et donc, je pense que c'est pour ça que Dieu a tout simplement confié à la France cette mission, désormais, d'être cette puissance temporelle qui allait veiller sur l'Église. Il a pour ça pris un certain nombre de dispositions. Il a fait en sorte que les deux royaumes, que Rome et que la France soient suffisamment, Rome n'étant pas un royaume, enfin, du moins étant confiée à l'autorité du pape, à l'autorité spirituelle. Il a mis la France séparée par les Alpes, sans doute pour qu'on ne veuille mélanger les deux pouvoirs. Voilà.
Bon, merci beaucoup, Émeric de Malécy. Je rappelle Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France, chez Via Romana. Voilà, en ce 29 décembre, chers auditeurs, je vous adresse une belle année à venir, 2025. Nous aimerions tant voir Jeanne d'Arc prendre son étendard et nous mener sur le chemin d'un renouveau catholique. J'invite nos auditeurs à particulièrement lire votre dernier chapitre. Vraiment, nous n'en avons pas parlé ici. Pour que vous puissiez être alléché et attiré pour acheter le livre, franchement, c'est très, très, très intéressant. Et voilà, comme ça, on pourra suivre vos conseils, Émeric. Ce chapitre est intitulé « Conséquences pour le monde d'aujourd'hui ». Voilà, bah écoutez, chers auditeurs, à la semaine prochaine ou l'année prochaine. Merci Justina.
Merci France.
Merci Aymeric et à bientôt.